Voilà, je vais laisser la parole à Pierre Leray. Pierre est toujours étudiant à la faculté de Vaux-sur-Seine et il a accepté de nous accorder un peu de son temps pour partager avec nous la parole ce matin. C'est avec joie que je lui laisse la parole.
Le changement, c'est maintenant, a dit Monsieur le Président Normal. Alors, on ne va pas parler de politique ce matin, mais je vous propose de nous intéresser à un homme normal qui voulait du changement, le prophète Élie. Alors, si vous connaissez un petit peu Élie, vous aurez peut-être du mal à le qualifier de normal. Pourtant, c'est bien un peu comme ça qu'en parle Jacques. Au chapitre 5, verset 17 de son épître, pas la peine de chercher, je vais vous le lire. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie, donc, un homme normal, peut-être un prophète extraordinaire. Le passage qu'on va étudier ce matin se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. Mais avant de le lire, on va rapidement parcourir les chapitres précédents pour avoir un petit peu de contexte. Alors, l'histoire se passe à l'époque d'Akab. Akab, un mauvais roi du royaume d'Israël, du royaume du Nord, qui a instauré le culte de Baal à la place du culte de Dieu. Il est influencé par sa femme Jézabel, qui a tué de nombreux prophètes de l'Éternel. Et c'est dans ce contexte que surgit Élie, au chapitre 17, verset 1, et il va engager un véritable bras de fer avec Akab pour prouver que le seul vrai Dieu, c'est l'Éternel. Alors Baal, c'est le dieu de l'orage qui apporte la pluie pour les récoltes. Et le meilleur moyen pour prouver sa fausseté, c'est de provoquer la sécheresse. C'est ce que Élie prie, et plus tard, après quelques péripéties, il va organiser une sorte de duel au soleil avec les prophètes de Baal sous les yeux d'Akab et du peuple. Il y a deux taureaux, deux autels, et le Dieu qui fait descendre le feu sur l'autel, c'est celui-là, le vrai Dieu. Et entre parenthèses, pour le Dieu de l'orage, Baal, souvent représenté avec un éclair, c'est censé être quelque chose de facile d'allumer un feu. Mais bien sûr, c'est sur l'autel d'Élie que le feu tombe. C'est l'Éternel qui est le seul vrai Dieu, CQFD. Ensuite, Élie prie, la pluie tombe. C'est une victoire éclatante pour Élie. Et à la fin du chapitre 18, on a une scène formidable où Élie court sous la pluie devant le char d'Akab. Symboliquement, c'est très fort. Parce que Élie étant le représentant de Dieu, c'est comme si Akab marchait derrière Dieu. Et avec cette scène, on a l'impression que enfin c'est gagné. Enfin, le changement est arrivé. Mais à ce stade du récit, il y a au moins deux questions qu'on peut se poser. La première, c'est comment est-ce que Akab va agir quand il va retrouver sa femme Jézabel? Est-ce qu'il va lui dire quelque chose un petit peu comme ça? Jézabel, ma chérie, je crois qu'on va arrêter avec les Baals. Et c'est ça qu'on attendrait de lui à la fin de après cet épisode, qu'il mette enfin un terme au culte de Baal. La deuxième question qu'on peut se poser, si on a une perspective biblique un petit peu plus large, c'est par rapport à Élie et Moïse, dans Deutéronome 18, 15 à 18, vous pourrez regarder plus tard si vous voulez, Moïse annonce la venue d'un prophète comme lui, d'un autre prophète qui viendra après lui. Et avec Élie, on a quelqu'un qui fait des miracles extraordinaires, comme Moïse en avait fait. Il n'y avait pas tellement eu de gens qui faisaient des miracles depuis. On est à un moment de crise dans l'histoire du peuple d'Israël, un moment de crise d'idolâtrie, comme Moïse avait connu aussi une crise d'idolâtrie. Alors, est-ce que cet Élie, est-ce que ce ne serait pas ce nouveau Moïse? C'est avec ces questions en tête que je vous propose de lire 1 Roi 19, les versets 1 à 18. 1 Roi 19, versets 1 à 18. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il y regarda, il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abet-Méola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Ce qui est formidable dans la Bible, c'est que même les personnages les plus impressionnants sont décrits avec leurs faiblesses et leurs moments de doute. Et dans ce texte, on voit Élie, un homme normal, mais l'un des prophètes les plus impressionnants de la Bible, en plein désespoir. Mais Dieu va le relever. Alors Élie est désespéré. On se demandait comment allait réagir Acab après la confrontation avec les prophètes de Baal et la démonstration flamboyante de la puissance de Dieu. Réponse versets 1 et 2. Acab fait comme il a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'il laisse faire Jézabel, sa femme. Il ne change pas, il ne fait rien. Résultat, Jézabel menace Élie de mort et lui s'enfuit pour sauver sa vie. Et là, on peut être peut-être un petit peu surpris de la réaction d'Élie. Est-ce que Élie a peur? Alors qu'il a risqué sa vie en faisant face au roi Acab, en faisant face aux 450 prophètes de Baal, lui qui a vu les choses extraordinaires que Dieu a fait, pourquoi ? Pourquoi est-ce que maintenant, Élie s'enfuit ? Si on regarde un petit peu en détail le texte, on voit qu'au verset 3, Élie s'enfuit pour sauver sa vie. Mais au verset suivant, une fois arrivé à destination, Élie demande à Dieu de lui prendre la vie. Le texte précise qu'Élie va à Beersheba, une ville de Juda. Et si vous connaissez un petit peu la géographie de l'époque, Akab, c'était le roi qui régnait au nord. Et Beersheba, le texte précise que c'est une ville de Juda. C'est même une ville au sud de Juda. Donc c'est le royaume sur lequel Akab ne règne pas. Donc en fait, Élie veut mourir. Élie veut mourir. Mais il ne veut surtout pas mourir de la main de Jézabel, parce que ça serait lui donner la victoire. En allant à Beersheba, Élie est sûr que Jézabel ne pourra pas s'attribuer sa mort. Et on voit déjà qu'on a ici le portrait, non pas d'un homme qui est effrayé, qui a peur, mais d'un homme qui est épuisé et désespéré. Il tombe dans un état apathique, où il n'a plus rien à attendre, il n'a plus qu'à se coucher et dormir en attendant la mort. Alors là encore, on peut se demander, mais comment est-ce qu'on est passé, en quelques versets, de l'Élie, qui ressemble un petit peu à un chevalier sans peur et sans reproche, conquérant et victorieux, à l'Élie désespéré qui attend la mort. On a la réponse au verset 10, lorsque il est interrogé par Dieu, Élie exprime son ressenti à Dieu, et il dit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » Là, il dit deux choses très intéressantes sur lui-même. Il dit d'une part, il est le seul à être resté fidèle, et deuxièmement, il a mis toute son énergie pour contrer cette situation. Alors c'est une question qu'on peut poser en entretien d'embauche, mais on a dans cette phrase la plus grande qualité d'Élie et son plus grand défaut. Sa grande qualité, c'est son zèle, toute l'énergie qu'il est capable de mettre au service de Dieu. Et son grand défaut, c'est peut-être la pensée un petit peu orgueilleuse de se croire seul contre tous. Alors on peut se poser cette question, est-ce que Élie est le seul à être fidèle ? C'est objectivement faux. Et en plus, Élie est censé le savoir. Parce que si on revient un petit peu en arrière, au chapitre 18, alors qu'Élie part à la rencontre d'Akab, il croise un certain Abdias, qui est le chef du palais d'Akab, un homme important, et le narrateur le présente en disant que c'est quelqu'un qui craint beaucoup l'Éternel. Et en plus, il a caché et nourri 100 prophètes de l'Éternel dans des grottes. Ce qui est un acte caché, mais très courageux. Et ça, Abdias, qui a caché les prophètes, le dit à Élie. Donc Élie est censé savoir qu'il y a au moins une centaine de prophètes qui sont restés fidèles, en plus d'Abdias. Élie n'est pas seul contre tous. Et en plus, il dit quelque chose d'un petit peu fort. Il dit que les Israélites ont abandonné Dieu et que les Israélites cherchent à lui prendre la vie. Et là, il exagère un petit peu. Qui cherche à lui ôter la vie ? C'est Jézabel. Alors c'est déjà pas mal, c'est la reine, elle est puissante, mais c'est pas non plus tout le peuple dans son ensemble. On voit que Élie a une petite tendance marseillaise à l'exagération. Par contre, quand Élie dit qu'il a déployé tout son zèle pour l'Éternel, cette fois, je crois, il n'exagère pas. Et je vous propose de faire un petit flashback dans les chapitres 17 et 18 pour voir de quoi on parle quand on parle du zèle d'Élie. Au chapitre 17, verset 1, il est dit « Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Et ça, c'est le premier verset où Élie apparaît. On n'en entend pas parler avant. Mais il y a une anomalie dans ces versets. Il y a quelque chose de vraiment surprenant. Normalement, si Dieu veut s'adresser à Akab, par exemple, s'il veut dire quelque chose à Akab, va y avoir une formulation un petit peu stéréotypée qui va être peut-être plutôt comme ça. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Akab par l'intermédiaire du prophète Élie. Il n'y aura pas de pluie, etc. Mais là, c'est Élie qui dit « L'Éternel est vivant, il n'y aura pas de pluie, sauf sur ma parole, sauf sur la parole d'Élie. » Et donc par rapport à une formulation plus typique qu'on retrouve partout ailleurs dans le livre des Rois, il y a un renversement de la parole de Dieu vers la parole d'Élie. Et ça, dans le premier verset où apparaît Élie, ça interroge le lecteur. Est-ce que Élie a la légitimité de dire ça sans que Dieu lui demande rien? Autrement dit, la sécheresse ne se produit pas à l'initiative de Dieu, mais elle se produit à l'initiative d'Élie. Et ce n'est qu'au verset 2 du chapitre 17 que la parole de Dieu intervient pour la première fois dans ce récit. Et ça, ça souligne le zèle d'Élie. Il était vraiment sûr de son coup pour pouvoir dire « il n'y aura pas de sécheresse si Dieu ne lui demande pas de dire ça ». Dieu n'était pas obligé de répondre en provoquant la sécheresse, mais il le fait quand même, ce qui semble résoudre la question de la légitimité d'Élie. Ça a bien l'air d'être un prophète de l'Éternel. Mais continuons au chapitre 18, verset 1. Dieu décide d'en finir avec la sécheresse, après 3 ans et demi. Il dit à Élie, « Va te présenter devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. » La première remarque, ce n'est pas tellement à la parole d'Élie que la sécheresse va cesser, mais c'est parce que Dieu l'a décidé. La deuxième remarque, ce que Dieu demande à Élie, c'est assez simple. Présente-toi devant Akab et la pluie va tomber. Mais si on regarde la suite du chapitre, on s'aperçoit que c'est beaucoup moins simple ce qui va se passer. Élie, il se présente bien devant Akab, mais il en profite pour organiser une confrontation avec les prophètes de Baal. Et c'est toute l'histoire du feu, etc. D'ailleurs, la pluie ne tombe pas tout de suite, mais Élie, il est obligé de prier pour qu'elle tombe et il va envoyer 7 fois son serviteur pour voir si la pluie va tomber. Autrement dit, la pluie se fait attendre. Autrement dit, Dieu ne demande pas à Élie d'aller affronter les prophètes de Baal, c'est lui, poussé par son zèle, qui va les affronter. En plus, regardez bien le contenu de la prière qu'Élie adresse à Dieu avant qu'il ne fasse descendre le feu sur l'autel. C'est les versets 36 et 37 du chapitre 18. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur vers toi. C'est une prière qui montre bien l'objectif principal d'Élie, que l'Éternel soit reconnu comme le Dieu d'Israël. Mais il y a 2 choses qui sont un peu fortes dans sa prière. Il veut être reconnu comme le serviteur de Dieu. Au milieu d'une prière où il demande à Dieu de se révéler, il dit « et que tout le monde reconnaisse que moi, je suis ton serviteur. » Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que Élie veut une petite part dans le gâteau de la gloire? Ou alors, peut-être qu'Élie, au final, il a une mauvaise estime de lui-même, lui qui demandait à Dieu la mort parce qu'il n'est pas meilleur que ses ancêtres. Est-ce que c'est une manière pour lui de se rassurer? On peut se poser la question sur... On pourrait longtemps se poser la question sur ce qui se passe à l'intérieur de la tête d'Élie. La deuxième chose un peu forte, c'est qu'il veut qu'on reconnaisse que c'est sur l'ordre de Dieu qu'il a fait tout ça. Mais comme on a vu, c'est pas complètement vrai. Dieu n'a pas demandé à Élie d'aller sur le mont Carmel. Dieu n'a pas demandé à Élie de provoquer la sécheresse. Et ça montre certes la motivation principale d'Élie qui est de prouver que Dieu est Dieu, il y a peut-être d'autres motivations qui sont un petit peu plus obscures. Peut-être qu'il est un petit peu motivé quand même par l'image qu'il donne de lui-même. En tout cas, ça nous montre que Élie s'est impliqué personnellement dans ce combat contre Baal. Son espérance, on l'a vu, c'est que le peuple reconnaisse l'Éternel comme son Dieu. Ce n'est pas si mal entre nous. Au lieu de Baal. Et surtout, son espérance, c'est que Akab, celui qui a entraîné le peuple dans l'idolâtrie, fasse de même et reconnaisse lui aussi que l'Éternel est Dieu. Mais on l'a vu, Akab ne change pas. Et ça, Élie l'a bien compris quand il a reçu la menace de mort de Jézabel. Donc son espérance très forte de changement se transforme en désespérance. Élie a déployé une quantité d'énergie énorme pour prouver par A plus B que Baal est un faux dieu et que Dieu est, que l'Éternel est le vrai Dieu. Et malgré toutes ces preuves accablantes, Akab ne change pas. Et comme Élie s'est personnellement engagé de tout son être dans ce combat, ce qui semble être un échec, Élie le prend aussi personnellement. Et du coup, on a ce moment de remise en question d'Élie. Est-ce que tous mes efforts ont servi à quelque chose? Est-ce que mon ministère avait un sens si même Akab, après tout ça, ne change pas? Est-ce que c'est parce que je suis quelqu'un de mauvais? Voilà toutes les questions que pouvait peut-être se poser Élie. Et peut-être que Élie oublie quelque chose d'essentiel, c'est que la réponse à son message n'est pas de sa responsabilité, mais de celle d'Akab. Et voilà, au milieu de cette désespérance d'Élie, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu, plein de grâce, comme on l'a chanté au début du culte, ne l'abandonne pas à son désespoir. Il va prendre soin d'Élie, comme il l'a déjà fait auparavant. Il le laisse se reposer, il le laisse dormir, lui donne à manger pour reprendre des forces, au verset 6 et 7. Il lui donne à manger pour que Élie puisse entreprendre un voyage, peut-être une sorte de pèlerinage au mont Horeb, où Dieu va se révéler à lui et le réorienter. Horeb, c'est un autre nom pour le mont Sinaï. C'est la montagne sur laquelle Dieu s'est révélé à Moïse. D'ailleurs, vous pouvez noter les quelques petites références qui semblent dresser un parallèle entre Élie et Moïse. Élie fait un voyage de 40 jours et de 40 nuits, ce qui fait écho aux 40 ans dans le désert. Élie va dans la grotte. C'est la traduction correcte. On ne parle pas d'une grotte avant, mais le texte précise la grotte. Normalement, il faudrait dire une grotte quand c'est une grotte qui apparaît pour la première fois. Donc c'est probablement une grotte bien spécifique, c'est-à-dire la grotte où Dieu s'est révélé à Moïse. Et il se trouve que c'est aussi là que Dieu se révèle à Élie. Une fois arrivé dans la grotte, Dieu l'interroge et lui exprime alors son ressenti au verset 10, on en a déjà parlé. Et Dieu va lui répondre de manière surprenante, il faut l'avouer. Il va y avoir trois éléments destructeurs, le vent fort, le tremblement de terre et le feu, mais Dieu n'est pas dedans. Par contre, il est dans le quatrième, qui est un petit peu difficile à traduire, un murmure doux et subtil, comme un silence subtil, une voix légère, une voix de bruissement fin. En tout cas, on comprend la tonalité, et on comprend que ce murmure doux, c'est le contraire des éléments destructeurs précédents. Et il y a là un message pour Élie, pour l'aider à se remettre en question dans la bonne direction. Alors qu'Élie est un adepte des confrontations fracassantes, peut-être que Dieu essaie de lui montrer que ce n'est pas forcément le seul accent possible pour servir Dieu. Ensuite, Élie sort, Dieu l'interroge à nouveau, et remarquez que Élie répond exactement la même chose que la première fois, mot pour mot. Ce qui montre qu'il n'a peut-être pas tout à fait compris ce que Dieu essayait de lui dire. Bon, à sa place, est-ce qu'on aurait compris? Pas sûr. Mais après, Dieu lui donne des directives. Va oindre Azaël, Jéhu et Élisée. Élisée qui sera ton successeur. Et ces trois personnes, on apprend qu'elles vont tuer beaucoup de gens, mais qu'elles ne vont pas tuer un reste fidèle de ceux qui n'ont pas adoré Baal. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les versets 9 à 12 et 13 à 18 qu'on vient de parcourir, ils ont une structure parallèle. Au verset 9 et 13, on a Élie qui entre et qui sort de la grotte. Ensuite, Dieu interroge Élie. Élie répond la même chose à chaque fois. Et Dieu rebondit avec d'un côté trois éléments destructeurs et leur antithèse, le murmure doux et léger. Et de l'autre côté, on a trois personnages destructeurs qui vont tuer beaucoup de gens et leur antithèse, des gens qui ne vont pas être tués par ces trois personnages et qui sont fidèles à Dieu. Et ça c'est la réponse de Dieu à Élie. Et comme souvent, de la part de Dieu, c'est extrêmement pertinent pour Élie. Alors d'une certaine manière, il est en train de dire à Élie, alors non, ton ministère, il n'a pas été complètement inutile. On pourrait se dire ça, face au refus d'Akab, est-ce que ce que Élie a fait sert à quelque chose? Mais ça n'a pas été inutile parce qu'il a mis en lumière le cœur endurci d'Akab et ce qu'il annonce avec ces trois personnages meurtriers, c'est le jugement. Le jugement viendra sur Akab et sur ceux qui ne se sont pas agenouillés devant les Baals. Élie leur a laissé une chance de se repentir. Ils ne se sont pas repentis. Akab ne s'est pas repenti, en tout cas. Et maintenant, plus tard, viendra le jugement contre Akab et sa maison. Cependant, cette mention des 7000 que laisse le Seigneur, en parallèle avec le bruissement léger, ça semble être plutôt un discrédit de la façon dont Élie a dirigé son zèle. Dieu est certes à l'œuvre dans les jugements, puisque c'est Élie qui va oindre les acteurs du jugement, mais là où Dieu est vraiment présent, c'est en se gardant un certain nombre de gens qui lui sont restés fidèles. Le murmure doux et léger, c'est la bonté de Dieu qui garde un reste fidèle. Finalement, le problème d'Élie, c'est qu'il avait une vision un peu faussée de comment Dieu agit. Certes, il a mis beaucoup d'ardeur à montrer que l'Éternel est Dieu, mais il a négligé un paramètre, la bonté de Dieu. Élie était obnubilé par la confrontation avec Akab et Baal, mais par exemple, il a négligé les 100 prophètes que Abdias a cachés et qui pourtant, ils constituent un bon début de ce qui pourrait être ces 7000 fidèles que Dieu laissera. Et Élie s'est tellement imaginé seul contre tous qu'il a oublié de s'intéresser à ceux qui étaient déjà fidèles à Dieu. Dieu essaie de lui montrer, pas forcément qu'il a tort sur toute la ligne, mais il essaie de lui montrer qu'il y a une autre manière de le servir, douce et moins belliqueuse. Il faut avouer que cette attitude d'Élie, on peut facilement la voir dans ce monde pécheur où on a l'impression d'être seul contre tous. Et c'est là qu'il faut se souvenir que Dieu nous a mis dans une église, dans une communauté, pour qu'ensemble, on puisse s'encourager. Alors maintenant, quelle leçon tirer de la vie d'Élie? Comme le souligne Jacques, le verset que j'ai lu au début, c'est un exemple pour la prière. Parce qu'il est un homme de la même nature que nous. Jacques aurait pu prendre l'exemple de Jésus, mais il a pris l'exemple d'un homme pécheur, mais à qui Dieu a répondu malgré tout. Et c'est ça qui est formidable, malgré peut-être les points négatifs que j'ai un petit peu soulignés à propos d'Élie. Il n'y a pas que des points négatifs à propos d'Élie. Mais c'est que Dieu répond quand même à ses prières. Et c'est pour ça que le commentaire de Jacques semble être très pertinent. Élie était un homme normal, on l'a vu. Il avait un désir ardent de servir le Seigneur, mais peut-être un petit peu mélangé avec des motivations moins louables, parce que c'est un homme pécheur comme les autres. Et par là, c'est quand même encourageant. C'est quand même encourageant parce que c'est un encouragement pour nous de ne pas attendre d'être parfait pour servir le Seigneur. Sinon, on ne ferait jamais rien de notre vie. Parfois, on se dit, je suis pas assez bien. Je suis trop pécheur pour m'engager auprès du Seigneur. Alors, il ne faut pas négliger son péché, mais il ne faut pas oublier que c'est par grâce qu'on peut servir le Seigneur. C'est par grâce que Dieu nous équipe pour son service. Et personne ne mérite de servir Dieu. De servir Dieu, que ce soit pour quelque chose comme annoncer l'Évangile ou servir Dieu en disant un petit mot d'encouragement à un frère ou une sœur. Élie a tenté de marcher droitement. En réalité, il a marché un petit peu de travers, mais Dieu l'a utilisé avec ses travers. Dans le Nouveau Testament, Élie est quand même apparu à côté de Jésus lors de la transfiguration. C'est pas rien. Il a mené une vie radicalement consacrée à Dieu. Et ce qui lui est reproché, c'est pas tellement son zèle, mais c'est plutôt la manière dont il a orienté son zèle. Et c'est en particulier dans la prière, comme Jacques le souligne, que nous devons être zélés. Dans le rationalisme ambiant, qui nous influence beaucoup plus que ce qu'on pourrait le croire, c'est contre-intuitif de prier. Pourtant, Dieu est là, il nous écoute, et il a le désir de nous donner de bonnes choses. D'autant plus si on est animé par le désir de le servir, il y a des chances pour que si on lui demande des bonnes choses, et il nous encourage à lui demander des bonnes choses, il nous réponde. Alors naturellement, si on demande à Dieu une Ferrari, il ne va pas nous répondre. Il ne s'agit pas non plus de faire descendre le feu de Dieu sur les impies, mais prier pour la sanctification d'un frère ou d'une sœur, prier pour qu'il nous équipe pour son service, prier pour qu'il nous fasse progresser ensemble en tant qu'Église. Dieu a envie de nous donner ce genre de choses. Alors prions-les. Priez pour un lieu de culte afin de pouvoir accueillir plus de monde. Ça peut paraître insensé après tout ce temps, mais soyons insensés dans les bonnes choses qu'on demande à Dieu. Il y a une question à laquelle j'ai toujours pas répondu, et je finirai par là. Pourquoi est-ce que Élie n'est pas le nouveau Moïse ? C'est là que c'est intéressant de comparer l'attitude des deux dans la situation de crise qu'ils ont tous deux connue, l'idolâtrie du veau d'or pour Moïse, l'idolâtrie des Baals pour l'autre. Alors pourquoi Élie n'est pas le nouveau Moïse ? C'est parce que alors que Élie, dans cette situation, il a cherché la confrontation, il a cherché à être reconnu comme le seul à être resté fidèle, Moïse, lui, a une attitude un petit peu différente. Il n'a pas cherché son intérêt, alors même que Dieu lui proposait de fonder un nouveau peuple à partir de lui. Il n'a pas cherché son intérêt, mais il a intercédé pour le peuple. Il a eu une attitude qui n'a pas négligé ce paramètre qui est la bonté de Dieu. Il a eu une attitude beaucoup plus bienveillante que celle d'Élie. Et à la fin de la vie d'Élie et d'Élisée, le peuple n'est pas tellement meilleur. On reste sur cette attente d'un nouveau Moïse pour que le peuple se tourne vraiment vers Dieu. Alors cette attente, elle sera comblée plus tard avec Jésus-Christ. Jésus, c'est le prophète par excellence. Les prophètes avant lui, c'était des porte-paroles, mais Jésus, lui, c'est la parole qui nous révèle pleinement le Père. Avec Jésus, on a à la fois un prophète zélé comme Élie, et on a à la fois quelqu'un qui se soucie de son peuple comme Moïse. Et il s'est soucié au point même de sacrifier sa vie pour lui. On l'a chanté, on l'a lu ce matin. Et contrairement à Élie, Jésus n'est pas resté solitaire, mais il s'est entouré de disciples qui pourraient continuer son œuvre. Jésus étant Dieu de toute éternité, il s'est fait homme pour nous servir, et c'est sur la base de son service que nous pouvons nous aussi nous mettre à son service. Toute l'œuvre de Christ toute sa vie, elle s'est faite dans cet objectif-là, de pouvoir constituer un reste fidèle consacré à Dieu par son sacrifice et sa résurrection. Et en cela, il est l'exemple parfait de l'homme qui a appliqué tout son zèle à faire la volonté de Dieu. Et bien sûr, suivre son exemple, c'est un exemple à suivre. Il ne s'agit pas de mourir sur la croix pour les péchés des autres, mais c'est de poursuivre son œuvre, de nous sacrifier les uns pour les autres, de nous soucier les uns pour les autres, de vivre sacrificiellement l'un pour l'autre. Et si on prie dans ce sens, sans oublier qu'on est une communauté là pour nous encourager les uns les autres, si on prie dans ce sens, on peut être sûr et certain que Dieu répondra à nos prières. Alors n'hésitons pas, soyons ambitieux et zélés dans notre vie de prière et de service. Merci.